Bien, donc, mesdames, messieurs, je vais procéder à l'appel. Une fois que cet appel sera fait, il vaudra pour constitution du conseil municipal. Donc, l'appel va se faire dans l'ordre de la présentation, dans l'ordre des résultats, comme cela est prévu. Je précise d'ailleurs que vos places aujourd'hui ont été faites, comme on le fait habituellement dans l'installation des conseils municipaux, du plus jeune au plus ancien. C'est comme ça, donc je vous le dis. Ensuite, lors des séances du conseil, il y aura une disposition qui sera différente et qui sera discutée d'ailleurs avec les présidents de groupe, si vous le souhaitez. C'est pas un souci. Donc je passe à l'appel. Donc Alard Pierre, oui. Chazelas Laurence, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Coindot Lucien, Pichon Joël, Le Kief Didier, Desroches Bernadette, Granet Thierry, Coucou Nadège, Gerbeau Alex, Crossi Eliane, Gandois Philippe, Murat Laure, Vacheux Christophe, Razoa Fenozoa Esther, Beaubreuil Bernard, Compère Béatrice, Ladune Clément, Séba Julia, Laurencier Noël, Pesquet Aurabel, Balestra Claude, Tricard Stéphanie, Roy Didier, Simono Christelle, Malagnou Bruno, Balestra Johan, Chazelle Anne-Sophie, Dauvergne Frédéric, Tarnot Nathalie, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence. Donc le conseil municipal est installé et je vais passer tout de suite la parole au doyen de l'Assemblée.
Merci, Monsieur Allard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons passer à l'élection du maire de la commune de Saint-Junien. Pour cela, donc, j'aurai besoin d'assesseurs pour m'accompagner. Je crois qu'ils ont été. Il y a eu des propositions. Monsieur Alex Gerbeau et Madame. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que ces deux personnes soient mes assesseurs pour procéder au vote, à la surveillance du vote? Je vous remercie. Nous avons organisé le scrutin de manière à ce que chacun soit tout à fait à l'aise pour s'exprimer. Ça va nécessiter un petit parcours dans cette salle qui est assez grande. Il va falloir chacun son tour monter sur l'estrade, passer dans l'isoloir. C'est un grand isoloir. Derrière l'isoloir, vous verrez, il y a une table avec un éclairage. Je vais demander donc quels sont les candidats à cette prérogative de maire de Saint-Junien. Monsieur Allard. Et Monsieur Balestra. Donc, je crois qu'on vous a préparé, donc c'était pas une révélation, on vous a préparé ces sur table deux bulletins, un au nom de Monsieur Pierre Allard, un au nom de Monsieur Johan Balestra, et une enveloppe pour présenter donc votre bulletin. Monsieur, vous voulez prendre la parole? D'accord. On vous écoute.
Merci, Monsieur le Doyen. Mes chers collègues, cette candidature, nous le savons parfaitement, est symbolique. Elle est l'aboutissement du processus électoral et permet à chacune et à chacun de se positionner conformément aux choix proposés au cours de la campagne. Cette démarche rappelle le sens de l'engagement qui a été, qui est et qui sera celui des élus issus de la liste Énergie citoyenne pour Saint-Junien. Les idées avant tout, les idées jusqu'au bout. Les résultats sont là. Malgré un contexte difficile marqué par une abstention record à une élection qui pourtant a toujours suscité l'intérêt de nos concitoyens. Je rappelle que moins d'un électeur sur deux a participé au scrutin dans notre commune. Nous les acceptons. Mais cela laisse naturellement, pour tous les amoureux de notre démocratie, un goût amer. Il serait trop facile de donner aujourd'hui, avec le recul dont nous disposons, des leçons et dire avec certitude, sur un ton péremptoire, que ce premier tour n'aurait pas dû se tenir. Nous ne blâmerons personne face à une situation sanitaire inédite pour notre société contemporaine. La dangerosité, la rapidité de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ont surpris tout le monde. Nous pouvons simplement juger, au regard de la très faible participation, que de facto, le scrutin est insincère, sans pour autant affirmer que cette situation a servi ou desservi plus une liste que l'autre. Le fait est que maintenant, voilà notre conseil municipal installé. 6 ans s'ouvrent pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre ville. Que chacun et chacune d'entre nous ici ne doute pas que les uns comme les autres, nous voulons toutes et tous le meilleur pour notre cité. Chacun aura ses positions, chacun aura ses points de vue, mais que tout le monde soit rassuré sur la façon dont les élus Énergie Citoyenne conçoivent ce mandat. Nous ne sommes pas une force d'opposition, nous sommes une force de proposition, et cela pourra nous amener à ne pas être d'accord. Néanmoins, au-delà de nos éventuelles divergences, les valeurs de notre République, auxquelles nous sommes tous vigoureusement attachés, liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, sont des liens qui nous unissent. Élus, nous devons en être les promoteurs et les gardiens, et le fait que notre première séance se tienne le jour de la commémoration de la Résistance incarne exactement mon propos et doit nous amener à ne jamais oublier l'essentiel. Le respect sera donc notre maître mot et sera, nous l'espérons, celui de tous, car sans refaire une campagne désormais close, nous n'oublions pas certains éléments qui s'y sont passés. Certes minoritaires, nous représentons 38,82%, et cette donnée objective devra être prise en compte. Nous vous faisons aujourd'hui confiance pour que notre juste place soit garantie. Nous ne demandons pas plus, mais ne voulons pas moins. Les élus Énergie Citoyenne pour Saint-Junien auront toujours pour boussole l'écologie, la solidarité et la démocratie, avec enthousiasme, bienveillance et détermination, dans un esprit constructif, en sachant faire des compromis et en refusant toute compromission avec nos valeurs. En somme, nous serons au service de nos concitoyens et de notre territoire. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Balestra. Donc, tête de liste de la liste Énergie Citoyenne. Monsieur Pierre Allard, voulez-vous intervenir? Non. Donc, je continue pour l'organisation donc, physique du vote. Bon, vous connaissez les articles, les procédures, je ne vais pas les rappeler. Donc, monsieur Alex Gerbeau, madame Pic, donc, nous allons nous rendre sur l'estrade pour vérifier tous ensemble donc, que les votes ont lieu dans les meilleures conditions possibles. Si quelqu'un, pour des raisons, je sais pas, quelqu'un ne peut pas monter sur les, il y a des marches, etc., l'urne pourra être déplacée. Je viendrai moi-même apporter l'urne. Si une ou deux ou trois personnes ne peuvent pas se déplacer, j'apporterai l'urne avec votre autorisation, à moins qu'il y ait des oppositions, pour que le vote soit fait à votre place. Y a-t-il des oppositions donc, à ce que l'urne soit éventuellement déplacée à la demande d'un électeur? Non, je vous remercie. Bon. Ah, j'ai oublié de vous. Oui, effectivement, j'aurais dû commencer par là. Nous avons un secrétaire de séance en la personne de Claude Balestra. Vous avez déjà tout noté, monsieur Balestra. Je vous en remercie. Alors nous allons commencer par dans l'ordre de peut-être que vous allez peut-être non vous voterez à la fin. Alors, on va commencer le vote par madame Laure Murat, et lorsque vous redescendrez, alors on va passer sur le côté à ma gauche et on redescendra, voilà, pour ne pas se croiser. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Johan Balestra. Johan Balestra. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Johan Balestra. Pierre Allard. 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 Johan Balestra. Pierre Allard. Pierre Allard. Johan Balestra. Pierre Allard. Pierre Allard. Pierre Allard. Johan Balestra. Donc voilà le dépouillement donc de tous les des enveloppes qui se trouvaient dans l'urne. Donc je vais vous annoncer donc les résultats. Il y a combien de voix pour Pierre Allard? Donc il n'y a pas de bulletin blanc, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de bulletin déchiré. 27. Alors il y a 27 bulletins au nom de Pierre Allard et 6 bulletins au nom de Johan Balestra. Donc je pense que c'est Monsieur Pierre Allard qui est élu aujourd'hui maire de Saint-Junien. Bravo.
Alors, je vais vous demander, oui, vous allez peut-être redescendre, vous allez remonter après, donc. J'attends que le doyen soit revenu. Donc je voudrais tout d'abord vous remercier de la confiance que vous venez de m'accorder et je voudrais aussi en profiter pour remercier les électrices et les électeurs qui m'ont renouvelé cette confiance pour les 6 années à venir et à la liste également que je conduisais. Et je voudrais juste rappeler une chose, je ne crois pas que le scrutin, mais je pense que c'était un lapsus tout à l'heure de Johan, je ne crois pas que le scrutin ait été insincère parce qu'insincère aurait voulu dire qu'il y avait la main de l'homme à un moment donné. Je pense que ce n'était pas ce qui était dit. Je crois plutôt que le scrutin, effectivement, était plutôt incomplet parce que dans une situation compliquée, avec une annonce de crise sanitaire la veille ou l'avant-veille des élections municipales et qui a fait qu'on a vu dans tout le pays s'effondrer les taux de participation à un moment donné. Alors moi, je ne vais pas non plus me lancer dans les analyses de savoir qui serait venu voter s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire ou pas. Je crois que cette crise sanitaire nous a appris au moins une chose et je voudrais profiter de cet instant d'abord pour remercier les élus qui étaient en poste, donc l'ancienne équipe dont certains faisaient partie et sont présents aujourd'hui même dans la liste que je ne conduisais pas, mais pour le travail qui a été fait parce que je crois qu'il y a un travail remarquable qui a été fait et je crois également que cette crise a permis de montrer que les élus étaient bien présents à leur poste, puisqu'ils sont restés en poste beaucoup plus longtemps que ce qui était initialement prévu. Ils sont restés en poste pendant la période de confinement. Ils ont assuré ce qu'on peut appeler la mission de service public communal, et ils l'ont assuré aux côtés des personnels de nos structures, que ce soit dans les différents services de la porte océane du Limousin, mais aussi des services de la mairie, des services indispensables pour que, tout comme les autres structures publiques que nous connaissons dans notre ville, on puisse voir l'intérêt du service public et du service public au plus près des administrés, avec un travail et un engagement qui a été de tous les instants, et je crois que c'est à souligner. C'est vrai que j'étais loin de m'imaginer, au moment où nous avons commencé la campagne électorale, que nous la finirions dans une telle situation. J'avais pour habitude de dire au fil du temps qu'il y avait deux enjeux qui étaient financiers et climatiques qui nous attendaient pour le mandat à venir. Il faut rajouter l'enjeu sanitaire. Aujourd'hui, est bien malin celui qui est capable, même si tous les jours je vois fleurir une flopée d'experts qui sont plus experts les uns que les autres, mais bien malin de savoir celui qui aujourd'hui est l'expert qui aura raison. Pour l'instant, nous avons une crise qui n'est pas terminée, qu'il faut encore gérer, qui nous a demandé beaucoup de travail dans les collectivités parce que nous avons eu à faire face à beaucoup d'incertitudes, que ce soit au niveau national notamment, incertitudes sur la gestion, mais que je ne juge pas, hein, parce que la situation était telle que peut-être qu'on aurait été dans la même incapacité à un moment donné à gérer, mais par contre on a constaté les manques qu'il pouvait y avoir à un moment donné des gestions passées et les conséquences de ces gestions passées sur la défaillance d'un certain nombre de services de l'État. Et je crois que le service public est resté en première ligne, et c'est ce qui me paraît être le plus important à soulever aujourd'hui. Donc c'est un mandat qui va être complexe, parce que nous allons devoir ajouter cette partie-là, mais c'est aussi quelque chose qui est enthousiasmant, parce que quand la ligne est trop plate, ce n'est jamais très amusant. Donc ça va être enthousiasmant, je crois, de relever les différents défis. Mais nous ne pourrons bien sûr pas les relever seuls. Et moi, je crois que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Donc j'ai entendu ce qui a été dit, pas une opposition pour le plaisir de s'opposer. Ça n'a jamais été mon style, et j'ai toujours été quelqu'un qui a été très, très large dans le laisser-faire, je dirais, encadré, hein, parce qu'on défend on est sur des services publics avec des financements publics, mais assez large dans la discussion. C'est bien ce que je souhaite faire avec une ligne de conduite qui est quand même celle que nous avons et qui est de servir nos administrés au mieux de leurs intérêts et dans le respect de la démocratie, bien entendu. Donc c'est en ce sens-là que moi je souhaite que ce mandat se déroule. Sachez que s'il se déroule de cette manière-là, il est bien évident que ça sera avec beaucoup de bonne volonté que je serai aux côtés des 32 membres, je m'étais englobé dedans, de ce conseil municipal, mais sachez aussi que je serai là pour bien faire respecter l'intérêt public qui doit prévaloir en toutes circonstances. Voilà moi ce que je voulais vous dire sans m'étendre plus en avant. Et je vais vous proposer maintenant, comme c'était prévu à l'ordre du jour, donc de poursuivre cet ordre du jour, puisque nous avons à déterminer le nombre d'adjoints et l'élection des adjoints. Donc il vous est proposé, conformément à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, de fixer le nombre d'adjoints à 9, ce qui est ce qui se faisait habituellement à Saint-Junien et qui correspond à 30% de l'effectif communal, arrondi, on peut arrondir à l'entier inférieur, mais nous étions à 9 et ça sur 33 conseillers municipaux. Il vous est également proposé, puisque cela a été discuté et validé, que les adjoints soient élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, puisque toute liste panachée sera considérée comme nulle. Voilà, je ne vais pas vous reprendre l'intégralité de la délibération, vous l'avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions pour cette délibération? On passera ensuite. Alors attendez, on va vous amener le micro parce que depuis là, je n'entends pas.
Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Énergie citoyenne s'abstiendra sur cette délibération. En effet, nous considérons qu'il est naturel qu'il revienne à la majorité de décider du nombre d'adjoints en fonction de l'organisation qu'elle souhaite mettre en place au sein de l'exécutif municipal. Néanmoins, nous tenons à souligner que le nombre proposé correspond au nombre maximal fixé par la loi pour la strate à laquelle appartient notre commune. Par ailleurs, si nous nous félicitons qu'une commission ait en charge les finances, proposition que nous avons défendue durant la campagne, nous nous interrogeons sur la pertinence de certaines répartitions des compétences et sur les contenus de certains postes dont nous avons l'impression qu'ils sont plus liés à des personnes qu'à une logique organisationnelle. Enfin, une question se pose. Pouvez-vous nous confirmer que les ressources humaines, recrutement, gestion des contrats seront traitées dans la commission finances, affaires générales et communications?
Alors, sur la partie du vote et représentation, je n'ai pas tout compris ce que vous avez voulu dire, mais bon, je prends acte. Sur la partie ressources humaines, je rappelle que le nombre d'emplois, les différentes propositions de postes pourront être soumis à cette commission, mais le choix, il intervient, ce n'est pas cette commission qui fera l'embauche ni les jurys des personnes qui seront recrutées. Dans la collectivité, les jurys se sont toujours tenus en présence de l'adjoint référent, d'une personne qui en charge les ressources humaines, de l'administratif du service ou du directeur du service. Ça s'est toujours tenu de cette manière-là, parce que je crois qu'il est tout à fait judicieux que lorsqu'on recrute quelqu'un, une fois que le profil de poste est établi et validé par les élus, enfin établi par les services et validé par les élus, il apparaît indispensable que ce soit les personnels qui auront les personnes sous leurs ordres qui puissent participer au jury pour le recrutement sous l'autorité de l'adjoint référent de la commission. Si on recrute quelqu'un qui dépend des affaires, du service des affaires scolaires par exemple, eh bien, ça sera la directrice en charge des affaires scolaires avec quelqu'un des ressources humaines complété par l'adjoint en charge des affaires scolaires qui compose le jury lorsqu'il y a nécessité d'avoir un jury, sauf si c'est de la promotion interne ou autre. Voilà comment ça se passe dans la collectivité, ce qui se passe à peu près dans toutes les collectivités, sauf quand, et je rappelle que c'est une possibilité qu'on laisse, parce que normalement, le personnel est sous l'autorité du maire et peut être recruté uniquement par le maire, ce que je ne fais jamais, puisque ça, jusqu'à présent, et depuis que je suis élu, il y a toujours eu un jury qui s'est tenu, et bien souvent, je ne participe d'ailleurs pas au jury. Alors, par contre, j'ai noté que sur la composition des adjoints, et donc sur la délibération, vous vous abstenez, voilà. Donc je le rappelais, ça sera pour le vote tout à l'heure. Je crois qu'il y avait une autre question, il me semblait, non? 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 Ok. Donc je vous propose de passer au vote de cette délibération, puisque avant de voter la liste des adjoints, il faut passer au vote de la délibération. Est-ce qu'il y a donc des abstentions? Donc 6, oui. Des votes contre, donc adoptés à la majorité. Je vous en remercie. Donc ensuite, vous avez sur table la liste des adjoints proposés et vous avez également un papier blanc et vous avez une enveloppe. Donc on va reprendre le même circuit, on va reprendre les mêmes assesseurs, on peut reprendre le même président de bureau de vote si vous le souhaitez. Oui, il y avait une question ?
Donc oui, c'était juste pour préciser que le groupe Énergie citoyenne ne va bien évidemment pas proposer de liste concurrente pour les adjoints et adjointes, puisqu'il nous paraît évident que ça soit une liste qui émane de la majorité qui a élu le maire. Nous tenons juste à faire remarquer que la municipalité dans son ensemble, donc le maire et adjoint-adjointe, n'est pas paritaire, donc 6 hommes et 4 femmes, c'était juste regrettable en termes de signal pour l'égalité femmes-hommes. Et sinon, nous avions une question aussi pour savoir si la vice-présidence de la commission finances, donc la vice-présidence, hein, pas le poste d'adjoint, sera confiée à un élu de la liste Énergie citoyenne. Donc voilà, c'est juste pour permettre d'appliquer un principe d'une bonne pratique démocratique du pouvoir et que Ce fonctionnement est aussi promu par plusieurs associations, comme l'association Anticor, par exemple.
Alors, je vais répondre sur la parité. Je rappelle que la loi prévoit un homme, une femme, un homme, une femme. Donc, dès lors que vous êtes neuf, c'est compliqué d'avoir moitié-moitié. Donc, on a respecté, la parité est tout à fait respectée. Oui, mais la parité, ce n'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc, si on commence dans un sens, ça, c'est décalé dans l'autre, et ainsi de suite. Donc, oui, on peut tourner...
C'est pour ça que je précisais les adjoints-adjointes plus vous.
Ah non, mais le maire ne compte pas dans la parité. Non, non, alors légalement, le maire ne compte pas. De toute façon, ça ne change absolument rien. D'accord. Et je rappelle qu'il y a le mandat, pas le mandat précédent, mais celui d'avant, c'était une femme qui était première adjointe. Et celui d'avant, c'était encore une femme. Donc la parité à Saint-Junien, si vous voulez, ça fait très longtemps qu'on l'a mise en place. Et ça y est, pendant deux mandats sous mon autorité, c'était des femmes qui étaient première adjointe. Là, ça a changé, ben voilà, mais c'est la vie, ça tourne à un moment donné. Par rapport aux commissions, je vais vous répondre tout de suite. Nous n'avons pas fixé de vice-présidence dans les commissions pour une bonne raison, puisqu'on parle de démocratie. Moi, je pense que c'est aux élus à l'intérieur de leur commission à décider de ce qu'ils souhaitent faire. Si vous souhaitez qu'il y ait des vice-présidences, vous en discutez en commission et puis vous vous mettez d'accord sur les vice-présidences en commission. Moi, ça ne me pose aucun souci. Mais si je décide arbitrairement, on va me dire que je ne suis pas démocratique. Donc là, ça sera très démocratique. Vous en discuterez en commission entre vous. Voilà, vous avez ma réponse.
Ben, merci pour votre réponse.
Donc, je vous propose de passer au vote. Et donc, je vais demander au doyen, il faut bien qu'il travaille un peu aujourd'hui, aux assesseurs de remonter sur leur tribune. Et on va commencer. Donc, vous avez, je disais, deux bulletins, un avec la liste et un blanc. Et donc, on va commencer par Laure. Allez, vas-y. Ah oui, je ne vais pas vous appeler un par un, hein, vous suivez.
Donc je vais vous donner les résultats. Il y a 28 bulletins de vote en faveur de la liste qui était présenté, et 5 bulletins blancs. Bravo à ceux qui ont été élus adjoints à la mairie de Saint-Junien.
Donc je remercie le doyen et ses deux assesseurs du travail qui a été fait. Avant de clôturer cette première partie, je voudrais vous donner lecture de la charte de l'élu local. Alors, je rappelle que il y aura un règlement intérieur qui viendra par la suite, qui sera discuté. Hein. Là, ce n'est que la charte de l'élu local, et vous avez pu voir que sur table, on vous a mis également le statut de l'élu local et la version de fin avril 2020 de l'Association des maires de France, donc qui a été élaborée par l'association. Donc, je rappelle que l'Association des maires de France est une association plurielle, puisqu'elle regroupe l'ensemble des composantes politiques qui composent enfin, tout ce qui est représenté dans les collectivités locales en France. Donc la charte de l'élu local, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses mandats ou de ses fonctions à d'autres femmes. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc ça, c'est la charte de l'élu local. À cela viendra s'ajouter par la suite le règlement intérieur, mais qui n'est pas établi puisqu'il sera discuté ensemble. Voilà, sur cette première partie, est-ce qu'il y a, avant que j'aborde la deuxième partie, des questions ou des interventions? Non? Donc, je... Tu voulais dire quelque chose, Eliane? Non, non. Clément? Ah oui, pardon, Clément, oui. Alors, attends, on va... La première partie, ben, je vais la clôturer, oui. Donc, si tu veux dire quelque chose, c'est le moment, parce que... Après, je passe à la suite.
Merci beaucoup. Nous, groupe des élus communistes, tenons à prendre la parole pour féliciter Monsieur le maire et l'ensemble des adjoints pour leur élection. Nous croyons à la réussite de l'ensemble de l'équipe municipale pour ce mandat. Nous prendrons pleinement notre part et nos responsabilités pour œuvrer à ces réalisations dans un esprit de rassemblement progressiste, humaniste, démocratique et environnemental au service des habitants et des habitantes. La période historique que nous sommes en train de traverser, marquée par l'épidémie et la crise du capitalisme, encore une, appelle à un travail collectif pour construire les nouveaux jours heureux à l'échelle locale, sans oublier les enjeux nationaux et internationaux, gros de menaces, mais aussi riches d'espoir. Il est pour nous symbolique de prendre nos fonctions en ce 27 mai, date anniversaire du Conseil national de la Résistance, auquel nous avons rendu hommage cet après-midi en tant qu'élus, puis en tant que militants. C'est dans l'esprit de ce conseil que nous devons inscrire notre œuvre, lui qui a su construire dans l'unité et la diversité les grands acquis sociaux et démocratiques qui forment le cadre de nos libertés et de nos droits. Rappelons enfin que ces conquêtes ont été imaginées et mises en pratique au cœur d'une des périodes les plus difficiles de notre histoire, dans un pays ravagé, avec un peuple meurtri et appauvri. Saint-Junien sera, ce qu'elle est depuis un siècle, une ville à l'avant-garde du progrès social, économique, démocratique et environnemental. En tout cas, nous œuvrerons librement dans cet esprit de fraternité aux côtés de Monsieur le maire et dans la majorité municipale pour atteindre ce but. C'est pourquoi notre première proposition est d'attribuer les noms de Camille Senon et de Cécile Roll-Tanguy, deux femmes dont l'action militante au service de tous mérite d'être reconnue, à des rues et, pourquoi pas, pour Camille Senon, à l'une des deux maisons de quartier. Car marquer l'espace, c'est aussi marquer les consciences. Merci.
Je vous remercie. Ben, ça fera l'objet de discussions en commission parce que je crois qu'il y a des commissions. C'est aussi le but où chacun peut s'exprimer, mais j'ai bien noté vos propositions, donc elles seront retransmises devant les commissions pour être discutées. Et si les commissions font remonter ces propositions, eh bien, il y aura une validation du conseil municipal. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer à la deuxième phase du conseil municipal. Alors, on ne va pas refaire l'appel puisque je m'aperçois que personne n'est parti, donc on ne va pas recommencer le tour de table. Donc, dans l'ordre du jour de la deuxième partie du conseil municipal, il y a les délibérations relatives aux délégations consenties au maire par le conseil municipal en application des dispositions des articles L222-22 et L222-23 du Code général des collectivités territoriales. Alors, je ne vais peut-être pas vous les relire dans leur intégralité, mais si il y a des questions, des remarques, avant d'aller plus loin, avant d'arriver au vote, je vous écoute, Monsieur Piel. Ah oui, avec le micro. Oui, quand on sera dans la salle du conseil, chacun... Enfin, il y a les micros, c'est pour ça que des fois, j'oublie les micros.
Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération qui nous est soumise n'est pas anodine. Concrètement, il nous est demandé en tant que conseillers municipaux de nous dessaisir de façon permanente au profit du maire de certaines compétences, que dis-je, de nombreuses compétences. Nous pouvons comprendre l'objectif d'efficacité de l'action administrative qui nous est présentée comme la justification de cette proposition. Mais il ne faut pas en venir à amputer notre Assemblée de compétences pouvant revêtir un aspect stratégique. Quand on regarde de plus près les items qu'il est proposé de déléguer, il est par exemple question de la possibilité de procéder à la réalisation d'emprunts pouvant aller jusqu'à 3 millions d'euros, de la possibilité de réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximal de 1,5 million d'euros, ou de la possibilité de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Ce n'est pas rien, et aucun élément ne justifie une délégation permanente au maire. Avouez qu'il est tout de même raisonnable que sur ces différents points majeurs, il incombe au conseil municipal de trancher. Si l'on se réfère à l'objectif d'être en capacité d'agir face à une situation d'urgence ou pour certains sujets dépourvus d'enjeux stratégiques, alors il est possible d'accepter que soient délégués en permanence au maire les items 8, 9, 17, 26 et 28. Telle est la proposition de modification que l'on soumet à votre approbation et que nous espérons que vous accepterez. À défaut, nous ne pourrons que voter contre cette délibération. Merci.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Alors, je dois dire que c'est une délibération classique que nous prenons en début de chaque mandat. Il est bien évident que vous pourrez voir au cours du mandat que lorsque je fais le choix de faire un emprunt, c'est parce qu'il a été au préalable voté en conseil municipal au moment de l'examen du budget. Et que le fait de pouvoir signer un contrat d'emprunt, c'est simplement quelque chose qui se fait après que le vote du budget ait été fait, qu'il y ait un emprunt de prévu au budget, parce que s'il n'y a pas d'emprunt de prévu au budget, je n'irai pas faire un emprunt, puisqu'il n'y aura pas besoin de faire un emprunt, et que cette délégation, elle sert simplement, lorsqu'il y a eu une consultation des organismes bancaires, à pouvoir signer à un moment donné pour pouvoir bénéficier des meilleurs taux d'intérêt, et donc à ne pas avoir à réunir le conseil municipal à chaque fois, mais en sachant que le prêt, ou tout au moins le montant maximal de l'emprunt, aura été au préalable validé par le vote du budget et donc par la commission des finances, puisqu'il y a une commission des finances pour ne parler que de ce cas-là. Et de nombreuses autres décisions, par exemple, lorsqu'on parle des écoles, il est bien évident que lorsqu'il y a une discussion sur les écoles, ça se passe déjà au niveau de la commission des affaires scolaires. Et je dois dire que les temps derniers, on a plutôt subi des fermetures de classes que des ouvertures de classes, et qui ne sont pas d'ailleurs validées par la collectivité, parce que si on devait valider les créations de places, j'en ferai plus souvent que l'administration ne me les supprime. Mais bon, ça, c'était pour la précision. Donc moi, pour l'instant, je ne souhaite pas modifier cette délibération, sachant qu'elle sera appliquée avec parcimonie, comme je l'ai toujours fait, et qu'il est bien évident que dès lors qu'on fixe, on met en place une commission des finances, par exemple, pour rester sur la partie financière, ce n'est pas pour passer outre la commission des finances. S'il y a emprunt, il y aura emprunt une fois qu'il est voté au budget. Et donc après, ce n'est que la recherche des organismes bancaires qui passera à ce moment-là. Mais je comprends votre remarque, hein, je l'entends, mais voilà. Parce que ça fait partie des délégations générales et que de toute façon, quand le budget sera voté, j'aurai de toute façon délégation. Vous n'aurez même pas besoin de me donner délégation. Je l'aurai déjà, puisque je vote. Mais ça fait partie des délégations générales. Et comme les lignes de trésorerie, si vous voulez, pour vous donner un exemple, l'État ne nous verse pas notre 12e à un moment donné. Il faut prendre une ligne de trésorerie. On ne peut pas réunir le conseil municipal dans les délais, des fois, pour prendre une ligne de trésorerie. Mais une ligne de trésorerie, c'est quelque chose qui, lorsque ça se prend, d'abord, ça s'explique. Et ensuite, c'est quelque chose qui se rembourse, puisqu'une ligne de trésorerie, c'est une avance d'argent dans l'attente de la rentrée de l'argent qui va arriver. Donc Voilà, mais ça fait partie des délégations générales. Après, je vous entends, mais moi, je pense que ces délégations générales, elles étaient ainsi par le passé. Ça n'a pas posé de soucis. Et le conseil municipal a toujours eu connaissance de la capacité d'emprunt, puisque vous le verrez au moment du budget, puisqu'on va voter le budget de toute façon avant le 31 juillet, puisque c'est la loi cette année. Vous aurez connaissance des montants maximum d'emprunt auxquels on peut, jusqu'où on peut aller éventuellement pour l'équilibre du budget. Et à partir de là, effectivement, j'ai délégation pour consulter les organismes bancaires et éventuellement pour aller signer le prêt. Mais le prêt qui aura été validé de toute façon au moment du vote du budget, pour un taux maximum. C'est-à-dire que on peut emprunter moins éventuellement, mais on ne peut pas dépasser le taux qui aura été voté au moment du budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il faudra amener le micro. Oui. Si, mais c'est pour l'enregistrement, Thierry, parce que sinon la machine ne l'entend pas, elle.
Oui, je disais merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Et si je peux essayer de rassurer nos collègues de l'opposition, mon expérience d'ancien élu a démontré que cette délibération est en tous les cas une délégation de pure forme, en fait, donnée au maire pour la bonne administration communale. Il est bien évident, et monsieur le maire vient de le rappeler, tous les débats se font au moment du vote du budget. Tout est inscrit dans le budget. Et cette délibération n'autorise en aucune manière le maire à dépasser ce que les élus ont voté au budget municipal. Donc la question est légitime. Elle peut s'entendre, effectivement, comme disait monsieur le maire. Mais pour en avoir fait l'expérience, et certains d'entre vous l'ont fait aussi, tout est discuté en municipalité, tout est discuté également en amont, et évidemment que pour une bonne administration, il est bien naturel que le maire puisse avoir quand même une certaine liberté d'action sans cesse à revenir devant le conseil pour demander une délib. Donc je crois qu'il est là question de praticité et de rapidité dans le mouvement. Donc voilà, c'est de pure forme. Et il va sans dire, naturellement, que nous voterons bien naturellement cette délibération dans l'intérêt de la bonne gestion de la ville. Je vous remercie.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? 6. Donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. Ensuite, nous avons la fixation du montant des indemnités de fonction attribuées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Alors, il y a une toute petite erreur qui s'est glissée dans votre document. C'est à la rubrique conseillers délégués. Ce n'est pas 10, mais c'est 11 conseillers délégués. Donc, la somme, c'est, vous mettez nombre de personnes, 11. Répartition enveloppe, 6 780,07. Voilà, puis ça vous modifie le taux global en dessous, donc 19 240,67 et en total 20 sur la répartition enveloppe et en total 21 109,76 au lieu des 20 493,37. Je rappelle que ce sont des sommes brutes. Voilà. Puisque pour info, si vous souhaitez le savoir, le maire de Saint-Julien, il a 2 000 € par mois en net. Voilà. Comment? Oui. Ah, attends.
Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, le sens de mon intervention, ce n'est pas de vous heurter, c'est de vous sensibiliser sur l'enveloppe donc, qui va être votée dans l'instant. Le sens de mon intervention, c'est qui va droit dans le sens de ce que nous avons défendu pendant la campagne électorale, c'est de réduire de moitié, donc, concernant donc, les indemnités des adjoints et des conseillers des conseillers délégués, l'indemnité qui leur seront allouées. La division par deux permet de donner des marges de manœuvre budgétaires à l'heure où les finances publiques sont contraintes. C'est par exemple la possibilité de financer des emplois. Sans prendre en compte l'indemnité du maire et en divisant par deux les montants alloués aux adjoints et aux conseillers délégués, on arrive à une économie de plus de 8000 euros par mois, c'est-à-dire 100 000 euros par an. Cette proposition n'est pas démagogique. Elle serait démagogique si nous avions décidé de baisser de moitié l'indemnité allouée à M. le maire, ou si nous avions décidé aussi de supprimer complètement donc les indemnités allouées aux conseillers délégués, aux adjoints, ce qui n'est pas le cas. De plus, il s'agit ici d'un signal positif que nous pourrons donner donc aux concitoyens, donc leur redonner confiance dans les responsabilités politiques. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je rappelle simplement que les adjoints ou conseillers délégués, lorsqu'ils se déplacent et lorsqu'ils viennent dans les réunions dans la collectivité, ils ont beaucoup de réunions en journée, ils ne sont pas rémunérés par leur entreprise. Donc les indemnités sont aussi faites pour compenser la perte qu'ils peuvent avoir. Quand un adjoint sur Saint-Junien a 800 euros net, vous pouvez constater que il est présent puisqu'il a au moins une demi-journée de permanence par semaine, plus avec les réunions, il est entre une journée, voire une journée et demie qu'il perd par semaine. Chez son employeur, on lui enlève son salaire brut et ses cotisations retraite. Voilà.
Je comprends bien, monsieur le maire, mais je comprends dans le sens où un mandat, bien sûr, lorsqu'il est exercé, il doit bien sûr pas amputer donc les salaires. Donc ça, j'ai très bien compris. Mais n'empêche qu'on pourrait faire un effort, ne serait-ce que sur les adjoints et sur les conseillers délégués, sans pour autant, je veux dire, les mettre dans la gêne au niveau de leurs finances, je pense. Voilà.
J'entends. Madame Pic.
J'avais une question, moi aussi, puisque il est possible d'avoir une indemnité quand on est élu et qu'on n'est ni adjoint ni conseiller délégué. Cette indemnité est facultative, mais elle est donc possible et dépend, en fait, on va dire, du bon vouloir de la municipalité. Et pourquoi ne pas avoir proposé une indemnité, ne serait-ce que symbolique ? En posant cette question, je ne pense pas seulement aux membres de notre liste Énergie citoyenne, mais également aux élus de votre liste qui ne seront ni adjoints ni conseillers délégués. Et cette indemnité, même très très faible, permettrait, je pense, de reconnaître aussi pleinement le rôle que nous pourrons jouer au sein de la municipalité, notamment puisque nous allons toutes faire partie des commissions qui vont permettre de faire vivre la commune.
Alors, deux choses. Alors déjà, ça me semble aller un peu à contre-courant vos interventions, mais bon, peu importe. Si, parce que si on rémunère plus de monde, ça ferait une somme forcément plus importante. Oui, non, mais je le fais remarquer. Après, notre souci, nous faisons en sorte de faire travailler les commissions le soir, c'est-à-dire pas en journée, justement parce que nous ne pouvons pas compenser le manque à gagner d'un conseiller municipal s'il part de son emploi pour venir dans une commission en journée. Vous savez aussi bien que moi que si vous prenez une heure d'activité chez n'importe quel employeur, même de base, quand vous avez pris le net, quand vous avez pris le brut, pardon, plus les cotisations retraite et tout, vous êtes à plus de 20 euros de l'heure. Donc, à un moment donné, on ne pourra pas le compenser. Donc, c'est pour ces raisons que ce sont les adjoints et les conseillers délégués, puisqu'ils ont été choisis, qui exercent cette activité et qui représentent le maire durant la journée quand il y a nécessité, suivant leurs responsabilités et qui font les permanences, et que pour les conseillers municipaux, cela se passe, on essaye de cadrer un petit peu les réunions le soir pour éviter de perturber la journée d'activité. Maintenant, si il y a nécessité de... on appelle ça bien souvent des jetons de présence quand c'est symbolique, d'y réfléchir, oui, pourquoi pas, mais ça ne remettra pas en cause les enveloppes qui sont établies là parce qu'elles ont été réfléchies depuis de longues dates. Je dois dire que ces pourcentages n'ont pas évolué depuis 2001, je tiens quand même à le rappeler, elles n'ont pas évolué depuis 2001 et comme elles sont sur des indices de la fonction publique territoriale, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique territoriale savent aussi que cette fonction publique n'a pas vu d'évolution de son indice, de ses grilles indiciaires depuis de nombreuses années. Donc au final, ce que percevait un élu, voire même un maire en 2001, c'est la même somme réduite avec l'inflation qu'il perçoit aujourd'hui. Donc moi, je pense que ces sommes ont été réfléchies et correspondent un petit peu, voire même, et je vous invite à demander à ceux qui étaient adjoints ou même anciens adjoints, qu'ils ne font pas beaucoup de bénéfices sur ces indemnités-là. Quand je dis de bénéfices, il n'y a pas de reste quand on a enlevé. Et j'étais adjoint au sport, donc je peux vous le dire, quand on a enlevé les indemnités, enfin quand l'employeur a enlevé la part salariale, quand vous êtes absent, parce que je n'ai pas vu un employeur qui maintienne la part salariale quand vous êtes absent, donc ça va très vite. Et à l'arrivée, l'élu ne doit pas non plus se trouver dans une situation où il perdrait de l'argent parce qu'il est élu. Parce que la reconnaissance aussi de l'élu, l'indemnité d'un conseiller et d'un adjoint au maire, ça fait aussi partie de la mallette. Il a les responsabilités, il doit aussi avoir la rémunération, il ne doit pas perdre d'argent à un moment donné. En gagner, je dis pas, mais il ne doit pas forcément perdre d'argent. Donc ça a été calculé de la sorte. Après, on peut peut-être aller plus loin sur l'enveloppe, j'en sais rien, parce qu'il y a aussi des pourcentages à respecter. Je sais qu'il y a des collectivités, oui, mais en principe ce sont des grandes collectivités qui rémunèrent un forfait de base pour les conseillers municipaux. Ça existe, mais qui est quand même somme toute très bas. Et par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est, je vous invite à regarder, c'est qu'il y a une très grande disparité entre les rémunérations des élus d'une ville de la taille de Saint-Junien et des élus d'une ville de la taille de Limoges, par exemple, où il y a des écarts qui sont très importants par rapport à des temps de travail qui sont quasiment identiques. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, mais si par la suite la commission des finances fait d'autres propositions, eh bien, on regardera ces propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des abstentions? Alors, des abstentions ou des votes contre? Des abstentions, une abstention, des votes contre? 5. Donc, une abstention, 5 votes contre, adopté à la majorité. Je vous en remercie. Donc, il nous reste, puisque en accord avec l'ensemble des présidents de groupe, nous avions proposé de valider les commissions, tout ça pour vous permettre de travailler à la fois sur le budget et puis d'avancer au maximum, puisqu'on a quand même pris pas mal de retard, non pas dû aux élus, hein, mais dû à la crise sanitaire. Donc je ne vais pas vous repasser l'ensemble des commissions, vous les avez vues, les 9 commissions, 2 conseillers délégués, un en charge du Centre communal d'action sociale, alors en plus des conseillers délégués qui sont notés, 2 conseillers délégués qui sont en relation directe avec le maire, un concernant le Centre communal d'action sociale et un conseiller délégué en charge du développement durable, puisque le développement durable est une question transversale qui intéresse toutes les commissions et donc qui ne se traite pas seulement dans une commission. C'est pour cette raison qu'on a souhaité avoir, que j'ai souhaité qu'il y ait un conseiller délégué qui ait une transversalité et qui puisse travailler avec l'ensemble des commissions, se saisir des dossiers dont ils souhaitent se saisir et que les commissions et les adjoints ou les conseillers municipaux puissent se saisir aussi de dossiers, puisque dans les commissions, il y a de nombreux dossiers en charge du développement durable. Est-ce qu'il y a des questions sur ces commissions? Pas de questions, donc je vous propose de prendre acte, parce qu'on ne les vote pas, ces commissions. Donc moi j'en ai terminé, mais je crois qu'il y avait des questions. Je peux y répondre, peut-être Johan, si tu veux. Faut juste que je retrouve ton courrier. Alors, voilà. Donc j'avais des questions sur la distribution des masques grand public et sur le rôle respectif de la commune et de la communauté de communes. Puisque les habitants de Saint-Julien n'ont pas eu les mêmes masques que les habitants de la Porte-Océane du Limousin. Alors, c'est très simple. La communauté de communes Porte-Océane du Limousin a fait un achat de 25 000 masques dans un premier temps. Seuls 15 000 sont arrivés au début des livraisons, alors qu'on nous avait annoncé les 25 000. Donc nous avions programmé la distribution, nous, sur Saint-Junien, en même temps des sacs poubelles et distribuer les masques grand public en même temps pour éviter de faire ressortir la population deux fois. puisqu'il aurait fallu de toute façon distribuer les sacs poubelles aussi, puisqu'on avait de nombreuses demandes, puisqu'on arrivait au bout de des sacs poubelles qu'avaient les personnes. Donc on s'était rabattu dans un premier temps sur une deuxième commande qu'avait fait la communauté de communes, qui était une commande à l'Association des maires de France, qui devait arriver le jeudi qui précédait la distribution des sacs poubelles, puisque la distribution a commencé le lundi, si j'ai bonne mémoire. Oui, ça doit être ça, le lundi. Toujours est-il que nous avons été avisés le jeudi que la commande de l'Association des maires de France était bloquée en douane parce que le gouvernement avait changé, un ministère avait changé l'étiquetage qu'il devait y avoir sur les cartons. Il devait y avoir la norme AFNOR indiquée sur les cartons et le lieu de provenance des masques. Donc ça, c'est une modification qui était apparemment qui datait du 3 mai ou du 5 mai, m'a-t-on dit, ça je vous le fais de mémoire. Toujours est-il que nous n'avions plus de masques et que les distributions étaient lancées. Et donc nous avons pris la décision de chercher d'autres masques qui ont été trouvés auprès d'un fournisseur qui est à côté d'Arcachon, au Tech, qui nous a fourni donc des masques grand public qui sont lavables 60 fois, qui répondent, c'est ceux que vous avez d'ailleurs sur vos tables, hein, qui répondent aux normes AFNOR, la norme définie par les pompiers, la norme AFNOR S76001, qui sont des masques qui sont fabriqués, alors qui sont vendus par une société française, bien sûr, mais qui sont fabriqués à l'étranger, puisque vous avez pratiquement très peu d'entreprises aujourd'hui qui étaient en capacité de nous livrer sur des masques grand public. Nous avons pris la précaution de vérifier, donc ces masques sont fabriqués certes au Guatemala, mais à Madagascar, par une entreprise qui travaille pour les grandes maisons de couture françaises, qui répond à une norme ISO 26000, je ne l'ai plus, à une norme ISO 26000, et qui est une société qui adhère au principe du commerce équitable, du développement durable et au principe écologique en vue de la préservation de l'environnement. Donc cette société qui a livré le fournisseur, c'est la société Akanjo, qui est bien connue des grandes maisons de couture. Donc on a fait cet achat puisqu'on n'avait pas d'autre solution, qui nous sera remboursé par l'État à hauteur de 2 euros le masque grand public. Donc c'est un achat qui... Les masques sont à 3 euros actuellement, c'est le prix des masques grand public. Ceux qui avaient été commandés par la communauté de communes sont au même prix d'ailleurs, à 5 ou 10 centimes près. Donc ces masques nous seront remboursés à hauteur de 2 euros. Et les masques de l'Association des maires, de toute façon, la première partie de la commande est arrivée la semaine dernière et la seconde partie de la commande va arriver fin de semaine. Je ne sais pas si c'est arrivé, Monsieur Burguet, je ne sais pas encore. Donc va arriver en fin de semaine. Ce qui veut dire que si on avait attendu l'Association des maires, on n'avait de toute façon pas assez de masques encore pour finir les distributions. Donc voilà, vous avez les éléments là-dessus. Sur les masques FFP2, pour essayer de m'y retrouver, parce que c'est un peu compliqué pour tout vous dire, effectivement, les stocks de la ville ont été donnés à hauteur de 4 000 masques dans les pharmacies pour aller... Alors ça, on revient au début du confinement. Hein, à hauteur de 4 000 masques dans les pharmacies pour être... Donc il y a 5 pharmacies qui ont eu 800 masques pour être distribués au personnel infirmier, puisque c'était les pharmacies au début qui avaient en charge la distribution de ces masques-là. Et 2000 avaient été remis au centre hospitalier. Ce sont des masques qui dataient de la grippe H1N1, Roselyne Bachelot. Donc ensuite, la communauté de communes a fait... Alors nous, on a trouvé quelques masques FFP2 à l'UGAP, qui est la structure qui, pour les collectivités, les achats groupés. Hein. Donc ces masques ont été mis de côté pour nos personnels, puisqu'on a des personnels qui sont en relation directe avec le public et donc pour lesquels il faut des masques. Mais ces masques ont été achetés il y a peut-être une quinzaine de jours, je crois, les FFP2, ou trois semaines. La communauté de communes a fait d'autres achats de masques à un moment donné auprès de l'entreprise Brousseau au quart. Et il n'y a pas eu d'autres commandes FFP2 puisque les commandes étaient réquisitionnées par l'État de toute façon pour aller soi-disant vers les soignants, mais une fois qu'ils sont réquisitionnés, moi après je ne suis pas capable de vous dire où vont les masques, hein. Le dernier achat de masques que nous avons fait par contre la collectivité et nous auprès d'un fournisseur à Saint-Junien, ce sont des masques dits chirurgicaux, ouais, les masques classiques comme celui que j'ai ici sur table, qui ont été achetés donc pour nos personnels qui ont besoin de masques puisque on fournit des masques à nos personnels. Donc il y a eu un achat de 15 000 masques qui a été fait pour un montant, on va arrondir entre les FFP2 et le reste, pour 6 000 euros en plus des masques grand public pour les agents. Donc on doit être à peu près à un peu plus de 40 000 euros d'achat de masques pour lesquels nous aurons un remboursement de l'État, donc sur les grands publics, à hauteur de 2 euros. Donc ça devrait nous faire 24 000, si vous comptez 12 000 masques à 2 euros, 24 000 euros de remboursement. Et les autres étant à 30 centimes, ils seront remboursés à hauteur de 15 centimes. Donc vous ferez le calcul parce que je ne l'ai pas fait. 15 centimes par 15 000 masques, voilà. Ces masques-là, ces 15 000 masques, sont pour nos personnels, puisque... les masques chirurgicaux doivent être changés toutes les 4 heures, à raison de 250 agents. On a essayé de se prémunir pour passer le cap. Bon, il se trouve que maintenant, il semblerait que la fourniture de masques soit plus facile. Enfin, les masques chirurgicaux, on arrive plus facilement à les avoir. Mais on a préféré se prémunir parce qu'on ne savait pas, au moment où on a fait l'achat de masques, ce qui allait arriver. Et je peux vous assurer qu'on a vécu de très grands moments avec les masques, puisque vous n'étiez jamais sûr que les masques arrivent. Un coup, on nous disait qu'ils arrivaient, un coup, ils n'arrivaient pas. Mais bon, tous les masques qui ont été achetés par la ville de Saint-Genis, un grand public, et ceux-là, sont tous garantis, ont tous une fiche technique et répondent aux normes qui ont été édictées par... Alors, chacun a édicté sa norme. Nous, on a pris des masques aux normes AFNOR. Voilà. Pour les explications, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui.
Alors moi, plus qu'une question, c'est une remarque qui ne vise pas du tout la commande que vous avez faite, parce que j'imagine bien que cette commande de masse a dû être un peu sportive. Mais c'est juste pour préciser que ces masques sont de taille unique. Donc moi, les masques taille standard ne me vont pas. Et le mien me sert d'écharpe, en fait. Ils ne vont pas non plus forcément aux enfants. Donc il y a certains commerces de Saint-Junien où les masques sont obligatoires pour les enfants de plus de 11 ans, etc. Donc je n'espère pas qu'on se retrouve dans un contexte identique à celui-ci, mais à l'avenir, si jamais il y avait comme ça des protections à commander, avoir dans l'idée qu'il y ait deux tailles, adulte-enfant, grand-petit. Alors, que certaines communes ont réussi à obtenir, c'était à mon avis, des fournisseurs auprès desquels
ils ont pu commander. Pour vous répondre, si vous voulez, ça fait partie d'une complexité à laquelle on a réfléchi, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse parce que suivant les enfants, il nous faut plusieurs tailles et pour l'instant, nous n'avons pas eu quand on a commandé, on n'avait pas le choix entre plusieurs tailles. Donc on avait des tailles uniques qui nous étaient proposées. Alors maintenant, effectivement, il commence à y avoir taille en forme, taille adulte. Encore que taille adulte, il y a eu des masques taille adulte qui ont été achetés, notamment par le conseil départemental, où je vous assure que les tailles adultes, c'est des grands adultes. Parce que vous, quand vous les mettez, Laurence, t'en as vu quelques-uns, toi, quand vous les mettez, vous ne voyez plus la route, hein, faut pas conduire avec. Mais à l'époque, non, on n'avait pas le choix et on a essayé de parer au plus pressé pour trouver des masques. Alors après, si ça se reproduit, d'autant plus que notre autre difficulté a été qu'au début, on nous a dit qu'il ne faut pas de masques pour les enfants. Après, on nous a dit qu'il faut des masques pour les enfants, mais qu'à compter du collège. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tellement d'experts et de spécialistes que... si une nouvelle crise arrive, ce que je souhaite pas et ce que je n'espère pas surtout, on essaiera de faire différemment si on en a la possibilité. Le gros problème quand même dans cette affaire, il est très simple, hein, c'est que on a passé des périodes où on était incapable de trouver un masque en France produit par une entreprise française. Voilà. Il faut le dire, il faut être très clair, à un moment donné, c'était impossible. Et les premiers masques, quand même, ça c'est pour la plaisanterie, mais les premiers masques chirurgicaux qui sont rentrés en France, ils venaient d'Wuhan, qui est la province chinoise où il y a la fabrication centrale pour toute la Chine et pour une partie du monde entier, d'ailleurs, de masques chirurgicaux. Le problème, c'est que comme Wuhan a été la région la première touchée, eh bien, ils se sont servis les premiers, ce qui est logique, hein, c'était sur place. Et pendant ce temps, eh bien, on n'arrivait pas à avoir de masques, y compris des masques chirurgicaux, y compris pour nos agents. Donc c'est pour ça qu'on a pioché dans des stocks qu'il y avait à la fois du département de la Haute-Vienne et les stocks Roselyne Bachelot qu'on avait, qui sont des masques périmés, hein, mais les soignants ont aussi à un moment donné des masques périmés, même des masques chirurgicaux. Donc voilà. Mais effectivement, on a essayé de voir, et maintenant, il commence à y avoir des masques enfants qui ne sont pas meilleur marché d'ailleurs que les masques adultes. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à tout. J'avais oublié la taille des masques, c'est vrai. Pas d'autres questions? Donc, je vous remercie de votre participation. Je lève la séance. Je pense que tout est signé, c'est bon. Voilà. Donc, je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.